franceinter.fr.
Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui les vacances de Monsieur Tati, écrites par Jean-Pierre Tiercelin et réalisées par Michel Sidorov. Des vacances de Monsieur Hulot jusqu'à Playtime, Jacques Tati a marqué le cinéma français par son originalité, son humour. Il a d'ailleurs été comparé par la presse anglo-saxonne à Charlie Chaplin. Et le chapeau, la pipe et l'imperméable de Monsieur Hulot ont eu le même succès que la canne de Charlot. Tati, le saltimbanque de génie, a-t-il révolutionné le cinéma français? La réponse est oui. A-t-il inventé la nouvelle vague? À voir. Est-il le précurseur de la nouvelle vague? Sûrement. Pour explorer la vie de Jacques Tati, chef de son vrai nom, nous avons invité dans la deuxième partie d'Affaires Sensibles Jérôme Deschamps, né à Neuilly, sur scène le 5 octobre 1947. Sur scène, oui, il y passera sa vie d'ailleurs, avec deux oncles influents. Le premier est acteur, Hubert Deschamps, le second cinéaste, Jacques Tati, mon oncle, et oui, enfin le sien, en l'occurrence. Élève au lycée Louis le Grand, Jérôme Deschamps fréquente l'atelier théâtral et rencontre Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent avant d'entrer à l'école de la rue Blanche, puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il entre pour 3 ans à la Comédie Française en 1978. Il fonde avec Macha Makeyev, sa compagne, la compagnie de théâtre La Famille des Chiens, qu'ils dirigent ensemble. En 2003, il est nommé directeur artistique du Théâtre National de Nîmes, fonction qu'il quitte en juin 2007 pour diriger le Théâtre National de l'Opéra Comique, fonction qu'il a quittée en juillet dernier.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
À l'heure où certains sont encore en vacances, ou d'autres, juste rentrés, y songent avec un brin de nostalgie, nous vous proposons de prolonger ce moment en compagnie d'un ami qui nous a tous fait beaucoup rire. Un grand acteur burlesque, un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, mais aussi un homme libre d'une profonde humanité qui savait regarder ses semblables avec un rare sens de l'observation et une grande tendresse. Et comme cette vieille connaissance vous est familière, sous les traits de François le Facteur ou de Monsieur Hulot, alors profitons-en pour prolonger un peu les vacances en compagnie de Monsieur Tati. C'est au long de l'été 1947, dans le village de Sainte-Sévère, dans l'Indre, que Jacques Tati tourne son premier long-métrage, Jour de fête, avec la complicité de toute la population, anticipant ainsi, avec une décennie d'avance, les pratiques de la nouvelle vague. La fête du village et l'arrivée des forains en constituent le sujet et le héros involontaire, campé par Jacques Tati, en sera François le Facteur, qui après avoir vu un documentaire sous la tente du cinéma ambulant et bu quelques verres de trop, se lancera dans une inénarrable tournée de distribution du courrier à l'américaine. Le film fera un triomphe. Grand prix du cinéma français, Jour de fête, devient vite un phénomène de société et de l'autre côté de la Manche, Tati est déjà célébré à l'égal de Chaplin dès son premier film. Le 19 juin 1949, auréolé d'une gloire toute récente, Tati revient à Sainte-Sévère présenter son film. La foule se presse, la presse locale, mais aussi nationale, est au rendez-vous. Un quart de journalistes est affrété. La radio se doit d'être présente, à commencer par Paris Inter, ancêtre de France Inter, sur les ondes de la radiodiffusion française.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous m'entendez. Je vous parle en direct des halles médiévales de Sainte-Sévère, au milieu d'une foule en liesse, au moment où le cortège vient de faire son entrée sur la place du village. Jacques Tati ouvre la marche au volant de cette Jeep américaine, littéralement acclamée par des habitants. Il est suivi de près par la voiture de son producteur, Fred Orin. Les véhicules sont décorés de guirlandes multicolores, puis suivent l'équipe du film et tous les amis. Chacun reconnaît chacun, on se fait de grands signes d'amitié, On s'interpelle, on s'embrasse. Le sous-préfet, le maire et le conseil municipal s'approchent pour accueillir le héros du jour. J'aperçois un petit garçon habillé en facteur qui vient remettre à Monsieur Tati une immense clé qui lui ouvre symboliquement les portes du village et l'amitié renouvelée des habitants. Trois petites filles en costume berrichon lui offrent des bouquets et le cortège repart de plus belle dans les rues de Sainte-Sévère tandis que la fanfare de la châtre se déchaîne au diapason de l'enthousiasme général. Je m'approche maintenant de la terrasse du café où les conversations vont bon train. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ravi de rencontrer un habitant de Sainte-Sévère qui a sans doute tourné dans le film.
J'ai effectivement tourné dans le film, mais je ne suis pas un habitant de Sainte-Sévère. Mais ne restez pas debout et prenez le temps de vous désaltérer.
Patron, deux petits blancs. Il y a un monsieur de la radio qui a le gosier sec à force de parler. Et comme c'est sûrement pas fini, mets-nous donc une chopine.
Merci de votre amabilité.
Oh, laissez donc. Si vous voulez mener à bout votre reportage, il vous faudra bien faire disparaître quelques canons. Et la disparition, moi, ça me connaît. Hein. Je suis illusionniste. Je me présente. André Delpierre, dit Pierre Del. C'est Tati qui m'a baptisé comme ça. Mais vous pouvez m'appeler Dédé.
Illusionniste? Non, vous voulez dire prestidigitateur?
Comme vous dites. À 16 ans, j'étais déjà sur les planches. Le magicien cubiste, ça vous dit rien?
Hein?
Je faisais disparaître des cubes.
Ah.
Dire que j'avais un contrat pour la mairie quand Tati m'a récupéré pour son film.
Comme magicien?
Non, comme accessoiriste. On venait de faire l'Olympia ensemble. Lui, il faisait un numéro de mime, extraordinaire, comme d'habitude. Moi, je suis un petit genou à côté. Hein. Mais j'étais trop heureux de faire ce film avec lui. Pensez donc, c'est ici que tout a commencé.
Ici? À Saint-Sévère?
Oui, enfin, presque. En fait, c'était au Marambert, un petit village à quelques kilomètres. Au moment de l'exode, j'avais 17 ans. Je ne tenais pas du tout à me faire embarquer par les Allemands. Alors j'étais venu me mettre au vert dans une petite bicoque qui appartenait à ma grand-mère.
Et Tati, ne me dites pas qu'il vous attendait au Marambert.
Non, je dirais plutôt qu'il est tombé du ciel, comme à son habitude. Un beau matin, on me dit que deux Parisiens qui font du musical sont installés au village. C'était trop beau. Je suis tout de suite allé les voir. On a commencé à papoter métier et on s'est plus quitté. Eux, ils avaient besoin de s'éclipser un temps parce que les Allemands voulaient qu'ils aillent se produire en Allemagne. Mais aller faire rigoler Hitler, c'était vraiment pas leur priorité. Faut dire que Tati était déjà une vedette de musical avec ses pantomimes sportives et Marquet, qu'on appelle tous Riquet, il était acrobate. Je crois qu'il s'était connu au casino de Paris.
Et ça se passait comment, la vie au Marambert?
D'abord, il fallait trouver de la nourriture. Alors, on allait donner la main chez les uns et les autres.
Mmh.
Les travaux des champs, surtout. Et Tati, à vrai dire, il découvrait le monde rural. Il regardait, il observait, il n'en perdait pas une miette. C'est en faisant les commissions qu'il a découvert Sainte-Sévère et sa vieille halle. Et l'idée est vite venue d'un projet de court-métrage.
Ah.
Marquet et Tati, ils n'étaient pas toujours d'accord. Ça s'engueulait sec, je les ai même vus en venir aux mains. Moi, je mettais mon petit grain de sel en proposant des idées de gags et ça finissait en rigolade. Et puis la ligne de démarcation est tombée et on est remonté à Paris retrouver les planches, mais on a promis aux habitants qu'on reviendrait.
Et le film? C'était déjà un jour de fête?
Non, c'était l'école des facteurs. On l'a tourné dans le midi, juste après la guerre. On y voit déjà Tati en facteur rural qui fait sa tournée à toute vitesse. Et ça a tellement bien marché qu'il a décidé d'en faire tout de suite un long métrage. Et là, on est tous revenus à Sainte-Sévère, comme promis. Allez, à la vôtre.
Eh bien, à la vôtre. Chers auditeurs, vous entendez à nouveau la fanfare et les applaudissements chaleureux des habitants de Sainte-Sévère. Ah, mais attention, petit imprévu. À peine arrivé sous la halle, Jacques Tati vient de faire signe à la fanfare de s'immobiliser. Avec des gestes larges et amples, il dirige maintenant les dernières mesures de la prestation musicale à la manière affectée et raffinée d'un grand chef d'orchestre classique que ne renierait pas la salle Pléienne. Dans un numéro de mime irrésistible. Les musiciens font de leur mieux pour garder le sérieux qui convient à leur subite promotion au grade d'orchestre philharmonique. Et voici qu'approche la note finale. Le chef improvisé salue bien bas. Il serre, comme il se doit, la main du premier piston, un peu ahuri. Et convie toute la clique à saluer à son tour. Bravo! Elle l'a bien mérité.
Merci, merci, mes amis. Merci à tous. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est ma tournée. Patron, à vous de jouer. Eh ben, dis donc, Dédé. T'as profité de l'échapper pour prendre de l'avance. Serre-moi donc un petit coup.
Il faut bien que quelqu'un réponde aux questions de la radiodiffusion française.
Alors là, je m'incline. Enchanté. C'est gentil d'être venu jusqu'ici. À la vôtre.
À la vôtre, monsieur Tati. Alors, c'est un peu le retour de l'enfant prodigue.
Disons, le retour vers un pays qui m'a merveilleusement accueilli plusieurs fois et qui est maintenant indissociable de jours de fête. Sans eux, le film n'aurait pas pu se faire. Vous savez, le village a été littéralement transformé en studio et une grande partie des habitants a accepté gentiment de jouer et de faire de la figuration. Ils ont été formidables. Il faut dire aussi que dans notre équipe de copains qui travaillaient à la réalisation, l'enthousiasme remplaçait l'argent dont nous étions plutôt démunis. Toute la troupe a été intéressée aux bénéfices, salaire minimum, repas à la même table, et on peut dire que tout le monde a joué le jeu. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas leur offrir ce soir une projection en couleur. Je m'étais promis de leur faire ce cadeau.
Le film était vraiment prévu en couleur ?
Ah bien sûr, il n'a jamais été conçu autrement. Si j'ai tourné avec deux caméras, c'est uniquement par sécurité. Je voulais donner au film des images d'Épinal où les couleurs seraient franches et gaies. On s'est donné un mal fou. Dans le déroulement, la couleur n'arrivait pas tout de suite. Elle arrivait progressivement avec les forains, le manège, les chevaux de bois et les baraques foraines. À la fin, la fête terminée, la couleur quittait le village. Résultat, j'ai dû monter les roches de secours tournées en noir et blanc. J'ai bien cru que je ne m'en remettrais pas.
Un jour, peut-être.
Oh, je crains que non. Le procédé Thomson Color a été abandonné pour de sombres raisons de stratégie commerciale. Une vraie trahison. Il n'y a plus aucune possibilité de développer.
Mais le film est là. C'est l'essentiel. Il est déjà considéré comme un chef-d'œuvre. Je me suis laissé dire que Marcel L'Herbier le comparait au voleur de bicyclettes.
Et puis de quoi te plains-tu ? T'as vu là-bas sur la place, ils t'ont fait un buste en plâtre avec écrit sur une pancarte « Immortel ». Qu'est-ce que tu veux de plus ? Allez, en attendant la projection et le bal, on va faire un petit tour à la fête.
Voyez maintenant tous les vélos de Sainte-Sévère ont un gros lot. Et pour bien le faire sonner, croyez-moi, rien ne vaut la post-synchronisation.
À propos de vélo, une dernière question. Quand François le facteur essaie de rattraper son vélo parti tout seul dans la campagne, il y a forcément un truc.
Le truc, c'est qu'il n'y en a pas. Juste un peu de savoir-faire. Dégonfler légèrement les pneus pour les faire adhérer au sol, bien graisser la chaîne et les roulements, et vous lancer à la main. C'est tout simple.
Ça c'est quelque chose.
Après le succès de Jour de fête, Tati aurait pu facilement exploiter le filon du facteur, genre les nouvelles aventures du facteur ou le facteur se marie. C'est d'ailleurs ce que beaucoup attendaient. On lui a même proposé une très forte somme pour tourner avec le comique italien Toto, un improbable Toto et Tati. Ce serait bien mal le connaître que de le voir accepter ce genre de proposition. Tati est un homme libre. Il le revendiquera toute sa vie. Il préfère donc songer à un personnage plus général, plus humain. Un personnage qu'il pourrait conserver au long de ses futurs films. Il va pour cela se mettre dans la peau d'un de ces Français moyens qui partent chaque année en vacances au bord de la mer. Si Jour de fête se déroulait dans un monde rural un peu figé dans ses traditions, ses futurs films auront pour toile de fond une société en pleine mutation dont il ne cessera de nous montrer les travers et les excès avec humour et tendresse. Après avoir écumé toutes les stations balnéaires de la côte atlantique, son choix se porte finalement sur Saint-Mars-sur-Mer, à proximité de Saint-Nazaire. Le tournage a commencé en juillet 1951. Le beau temps ne semble pas de la partie, mais notre reporter n'a pas longtemps résisté au désir de partir à la rencontre de Monsieur Tati et de son nouvel avatar, Monsieur Hulot.
Chers auditeurs, vous l'avez sans doute deviné, en entendant derrière moi le sifflement du vent, le cri des mouettes et le bruit des vagues, nous nous trouvons au bord de la mer. La mer, toujours recommencée, comme disait le poète, et comme pourrait le dire l'inlassable Jacques Tati, qui tourne actuellement son nouveau film, Les vacances de Monsieur Hulot, dans cette sympathique petite station balnéaire de Saint-Marc-sur-Mer, avec son hôtel de la plage, qui est au cœur même du tournage. Vous entendez les enfants jouer sur la plage, ballon, cerf-volant, jeu carré. En m'approchant de l'hôtel, j'aperçois le marchand de glace qui tente de maîtriser son ruban de guimauve, alors qu'un peu plus loin, on prépare des ânes pour la promenade. À moins que ce ne soit pour une prochaine scène au programme de la journée. Je m'approche maintenant de l'entrée de l'hôtel où nous espérons pouvoir rencontrer Monsieur Tati en personne. J'ouvre la porte, je me précipite à l'intérieur du hall. Oh, oh, mais qu'est-ce passe-t-il? Oh, pardonnez-moi, chers auditeurs, je vous demande quelques instants, mais... Ah, ma vue se brouille après un choc terrible que je ne m'explique absolument pas.
Oh. Bravo! Vous êtes bon pour une tournée au bar de l'hôtel.
Ça va? Vous n'êtes pas fait mal?
Non, je ne crois pas, mais... Mais que s'est-il passé?
Bah, il se passe que vous êtes entré par la fausse entrée de l'hôtel de la plage, construite exprès pour le tournage. Ah. C'est Lagrange qui va être content, c'est lui qui l'a conçue. Et finalement, elle fonctionne aussi bien dans la vie qu'à l'image.
Mais derrière, c'est le mur de soutènement de l'hôtel. C'est du solide.
Ah oui, oui, je le sens à mon nez.
Et d'autant que tout ça est construit dans les règles de l'art par Monsieur Pichon, menuisier et conseiller municipal de Saint-Marc. Qu'est-ce que vous cherchiez comme ça avec tant d'ardeur?
Ben, Monsieur Tati, je pensais le trouver dans le hall. Oh, bonjour, Pierre Del. Je vous reconnais maintenant. Nous nous étions vus il y a 2 ans sous les halles de Sainte-Sévère.
Mais bien sûr! Alors, la radiodiffusion française est de retour? C'est gentil de ne pas nous oublier. Tati ne va pas tarder, il fait des essais avec la voiture. Venez, avec Sylvette, on va vous faire faire le tour du propriétaire.
Bonjour, monsieur. Sylvette Baudreau, script. Si on commençait par notre ami Polo, le marchand de glace, peut-être qu'un petit glaçon sur le nez vous soulagerait.
Oh non, non, merci, ça ira.
Une petite glace alors, elles sont délicieuses.
Ce sont de vraies glaces?
Oui, et Polo est vraiment marchand de glace. Enfin, pendant la saison d'été.
Oui, parce que le restant de l'année, il est plombier. Et voyez, ça change pas. Sur les films de Tati, on pratique toujours la polyvalence. Ah, attention, Polo, la guimauve. On ne la malaxe qu'au dernier moment, juste avant la prise. Sinon, elle va tomber pour de bon sur le sable.
Bon, autant vous prévenir tout de suite, les façades de villas que vous voyez là-haut, elles sont également fausses. Ah. Elles ont été posées sur des ruines de maisons sinistrées pendant la guerre.
Eh oui, vous voyez au cinéma, on anticipe la reconstruction. Mais restez tout de même prudent quand vous ouvrez une porte.
Soyez tranquille, j'ai compris. Et là, si je vous regardais par la fenêtre, c'est à mes risques et périls.
Exactement. C'est la fenêtre où apparaît Martine et qui est censée être celle de la maison là-bas. Mais pour le cadre, nous l'avons juché bien en avant sur un échafaudage.
Alors comme ça, Jacques Tati a maintenant une script girl à l'américaine sur son nouveau film.
À l'américaine, je sais pas. Mais au début, ça n'a pas été évident. Le CNC lui avait versé une aide financière et la condition était d'avoir une script sur le tournage. Mais lui, ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Vous savez comment il m'a accueilli? Mademoiselle, je vous préviens, je n'ai pas besoin de script, j'ai tous mes raccords dans la tête. Et il m'a planté là.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Mon travail, tout simplement. J'ai tout noté tranquillement dans mon coin, sans me faire remarquer.
Jusqu'au jour où nous avons tourné la scène avec le pot de peinture qui part et qui revient au gré de la vague, quand Hulot repeint son kayak.
Et là, il y avait un trucage.
Si vous voulez. En fait, le fond du pot était en liège pour pouvoir flotter. On tirait le pot dans un sens ou dans l'autre avec du fil à pêche invisible qu'on manipulait avec des cannes à pêche à moulinet. Encore fallait-il épouser le rythme de la vague. Rien de moins sûr. Au bout de 20 prises, pas une seule de complète. Tati était furieux. Jusqu'au moment où Mercanton, le chef opérateur, a dit « Peut-être que la script a noté les différences entre chacune des prises et celles qui pourraient être utilisables pour un raccord. » Et la petite a répondu avec un grand sourire
« Oui, monsieur. La 4, la 16 et la 18.
» C'était gagné. Maintenant, il ne jure plus que par elle.
N'exagérons rien. Mais on travaille beaucoup ensemble. Aux répétitions, je note tout exactement. Et au tournage, je lui signale les différences. Je dois dire que j'apprends beaucoup avec lui. La concentration, La minutie.
Et pour ce qui est de la minutie, avec Tati, on est servi.
Ah bah tiens, le voilà qui revient. Si l'humeur est bonne, vous devriez pouvoir lui parler. Jacques, il y a du monde pour toi. La radio nationale.
Chers auditeurs, j'aperçois maintenant sur la petite route en corniche qui domine la plage la silhouette du nouveau personnage créé par Jacques Tati. Il vient de descendre d'une vieille guimbarde décapotable des années 20, pétaradante à souhait. De là-haut, la pipe au bec est vêtue d'un grand imperméable. Il me salue fort aimablement en soulevant un petit chapeau, puis me fait de grands signes avec son parapluie. Le voilà maintenant qui descend vers nous à grandes enjambées, un peu sur la pointe des pieds. Son pantalon trop court laisse découvrir de curieuses chaussettes rayées. Bonjour, monsieur Tati. Heureux de vous retrouver. Comme vous incarnez un nouveau personnage, auriez-vous la gentillesse de vous présenter en direct à nos auditeurs du poste Paris Inter? Pardon?
Vous permettez? On va essayer sans la pipe, ce sera plus clair.
Hulot?
Oui, Hulot. T'es mieux comme ça?
C'est parfait. Je suis sûr que nos auditeurs ont parfaitement entendu. Hulot.
Mine de rien, je vous signale que vous venez d'entendre en exclusivité les répliques d'entrée de Monsieur Hulot.
Mais ne le répétez pas.
Soyez tranquille, merci beaucoup. Et vous êtes en vacances, Monsieur Hulot?
Oui, c'est ça. En fait, je tourne le film des vacances de Monsieur Hulot. Un monsieur comme vous et moi.
Comme vous et moi? Vraiment?
Bien sûr, Hulot, c'est un peu moi, mais c'est aussi un peu nous tous.
Vous savez qu'on vous compare déjà à Charlot?
Cela m'honore beaucoup. Vous savez, j'admire profondément Charlie Chaplin et tous les grands créateurs comiques du cinéma muet. Mais Hulot n'est pas du tout un débrouillard comme Charlot. C'est un lunaire, un distrait. Il est à la fois, dévoué, maladroit et tendre. Et comme il est plutôt grand, il lui arrive d'attirer l'insolite, voire les catastrophes, comme le paratonnerre attire la foudre.
Il est maladroit.
Oui, c'est ça. Un touche-à-tout maladroit. Quand il s'en sort, c'est un peu comme le bouchon ballotté par la vague. Il est d'une innocence désarmante. Il a la confiance sans limite des myopes qui lui permet de traverser les obstacles sans même se douter de leur existence.
Et toujours pas de vedette?
Surtout pas. Je recrute les personnages parmi les habitants et les estivants, tous heureux visiblement de participer à l'aventure. Et puis, il y a bien sûr les amis de l'équipe à qui je confie des rôles. Pas vrai, Dédé? Vous imaginez, si dans le film, en ouvrant une cabine de bain, on découvrait Martine Carole, les spectateurs se demanderaient comment Monsieur Hulot peut bien passer ses vacances avec Martine Carole. Non, ça n'aurait aucun sens.
Ah bah, tout de même, moi ça me plairait bien, Martine Carole.
Attention, Dédé, gare à tes fesses.
Patron, va falloir y aller, le soleil revient.
Très bien. Envoyez la musique.
C'est la musique du film?
Oui. Elle est belle, non? Je la fais diffuser sur la plage avant les prises pour les mettre dans l'ambiance. Allez, je vous laisse. Merci et bonjour aux auditeurs. Allez, tout le monde en place! Les enfants, amusez-vous! Polo, viens ta guimauve. Le couple de promeneurs en place pour la promenade.
Le tournage durera ainsi jusqu'au mois d'octobre. Les enfants de Saint-Marc ayant repris le chemin des écoliers, Tati et son équipe iront les chercher régulièrement en jeep à la sortie de l'école, avec la bénédiction de l'instituteur pour quelques plans supplémentaires. Le temps de sortir leur maillot de bain du cartable, ils nous donneront l'illusion de la continuité de l'été et des vacances avec Monsieur Hulot. Le film sort en 1953. C'est tout de suite un immense succès populaire. Il reçoit le prix de la critique au Festival de Cannes. Le Canard Enchaîné déclare « Je classe l'humanité en deux catégories, ceux qui ont vu le film et ceux qui ne l'ont pas encore vu. » Tati est maintenant reconnu comme un maître du cinéma. Une carrière internationale peut commencer pour Mr. Hulot's Holidays. Londres d'abord. La renommée est telle que les étudiants d'Oxford jugent bon d'entrer en cours de philosophie vêtus d'un imperméable, coiffés d'un chapeau et la pipe au bec. Puis les États-Unis, New York, Boston, San Francisco. Son humour est tellement universel que beaucoup le prennent pour un Anglais. Les plus grands comiques américains, de Mack Sennett à Stan Laurel et Buster Keaton, le reconnaissent pour un des leurs. Et pourtant, dit-il, je n'ai pas voulu faire du burlesque. Juste un film d'observation. Jacques Tati est vraiment devenu Tati. Après le triomphe de Mon oncle en 1958 et un Oscar du meilleur film étranger, commencera ensuite, avec Playtime, une période plus difficile pour ce réalisateur exigeant. Mais aujourd'hui, restons encore dans cet heureux moment de vacances avec Monsieur Tati, qui ne cessera jamais de rêver à de nouveaux projets pour mieux nous faire rêver à notre tour. Celui qui, jusqu'à sa mort en 1982, ne cesse de retravailler et réinventer encore et toujours ses films précédents, comme son tout premier, Jour de fête, dont il viendra fidèlement présenter chaque nouvelle version à ses amis de Sainte-Sévère. Alors, pour nous aussi, il est temps d'y retourner encore une fois par un beau soir de 2007.
Et voici que se termine cette soirée exceptionnelle pour fêter l'ouverture de la maison de jour de fête, retransmise en direct de Sainte-Sévère sur l'antenne de France Inter. Je m'approche maintenant de nos deux invités d'honneur, Sylvette Baudreau et Pierre Del, tous deux fidèles collaborateurs de Jacques Tati, qui ont par ailleurs l'un et l'autre à leur actif une brillante carrière avec les plus grands réalisateurs. Alors, vos premières impressions après cette projection ?
Quelle émotion de voir enfin la version couleur projetée ici, sur les lieux mêmes du tournage. Comme il aurait été heureux.
Tout ça, c'est grâce au travail acharné de sa fille, Sophie Tatichef. Un travail de près de 10 ans avec François Aide pour résoudre les problèmes techniques, optiques et chimiques du procédé oublié de Thomson Color. Mais ils y sont arrivés et le film a pu sortir en 1995 pour le centenaire du cinéma.
Et quelle couleur ! Quelle nuance ! Vous avez vu la subtilité de ces camaïeux ?
C'est exactement ce qu'ils voulaient. De la couleur qui ne soit pas vraiment de la couleur. Pas vraiment, Jacques. J'espère que là où tu es, tu t'en emplis plein les mirettes de ton beau nuancier.
T'inquiète. Je suis sûre qu'il est là près de nous sur son vélo et qu'il s'essuie une petite larme de bonheur au coin de l'œil. Tu as entendu ?
Ouais. C'est pas possible. Jacques ? Jacques, t'es là ? Réponds. Jacques revient.
Toujours le même, Monsieur Tati.
C'était Affaires sensibles de Fabrice Drouel et Christophe Barrère. Les vacances de Monsieur Tati de Jean-Pierre Tiercelin. Avec le reporter Éric Aymon, le présentateur Laurent Lederer, Pierre Del jeune, Laurent Horry, Pierre Del âgé, François Sienner, Jacques Tati, Philippe Bautier, Sylvette Baudreau jeune, Amandine de Wam, Sylvette Baudreau âgée, Catherine Houdin, narrateur Bernard Gabet. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Claude Niort, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidoroff.
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai, un si cassé qui se désole, un mi-fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre. Je pense encore, encore à toi, Domicila. Le vieux piano, la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient d'un rêve sans fin. Tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, en tremblant ému, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruelles ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine de mon heureux sort, mes peines, lorsque tu tapes, 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 toute la semaine, même le samedi. Débarque, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque, et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste, en écoutant le cœur battant, l'air de ses 20 ans.
Ça m'enlève un petit peu de vérité sur mon effet comique. Car je vous donne un exemple pour les vacances de Monsieur Hulot. Bon, j'avais pris l'hôtel de la plage. J'ai trouvé des personnages que l'on n'avait jamais vus au cinéma et qui permettaient peut-être aux spectateurs de venir là voir vraiment des estivants. Bon, je ne veux pas citer de nom, mais si j'avais, à un moment donné, vu la porte de l'hôtel s'ouvrir et sortir une vedette de l'hôtel, on serait dit, tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle, mademoiselle X passe également ses vacances. Ce qui est, donne exactement la même difficulté dans le dialogue, car, quand on m'a dit, vous savez, le dialogue des vacances de Monsieur Hulot, il n'est pas très, très, très spirituel. J'ai répondu, oui, mais Janson ne passait pas ses vacances justement pendant ces deux semaines où nous avons tourné le film sur la plage. Et j'ai été dans l'obligation de mettre le dialogue, enfin, désestivant, donner toujours, j'essaie toujours de donner de la vérité dans mon effet comique.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, Jacques Tati, notre invité aujourd'hui, Jérôme Deschamps. Place à notre invité aujourd'hui donc, l'homme de théâtre, neveu par alliance de Jacques Tati, monsieur Jérôme Deschamps. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, oh, on va aller dans le vif du sujet immédiatement avec une question qui peut paraître abrupte. Mais enfin, quelques critiques, pas mal de critiques l'ont dit, ou pas dit justement. Alors je vous pose la question, Tati était-il un vrai cinéaste ou simplement, si j'ose dire, un humoriste?
Mais je crois que c'est les deux. C'est un immense cinéaste parce qu'il a inventé une écriture particulière, complètement originale, ou au fond, il met le spectateur dans une situation très particulière, celle de découvrir, c'est de comprendre, d'être surpris. Il joue en fait avec le spectateur et il joue avec des plans toujours larges. Son rêve, c'était que les spectateurs se donnent du coude pour dire, disons, t'as vu ça en bas à droite, l'avion qui se dégonfle, découvre le film. Au fond, il est très ambitieux, Tati. Il a envie que les gens apprennent à observer, à regarder le monde, à décrypter et à le faire avec humour, parce qu'il dit, il disait, mais vous savez, la vie, les histoires d'amour, ça marche pas toujours formidable, le boulot non plus et tout ça. Il faut bien s'en sortir, il vaut mieux s'en sortir avec humour. Et il y a rien qu'il aimait comme être à une terrasse de bistrot, à regarder le monde et à se poser des questions et à décrypter les choses. Voilà, c'est quelqu'un de, au fond, de très ambitieux.
Et l'humour, c'est une sorte de thérapie sociale, c'est ça?
Oui, complètement. Et puis c'est qu'il vaut mieux s'amuser de ce qui se passe. Bon, le cinéma de Tati, il nous montre un monde qui change et dans lequel il faut savoir s'inscrire. Et au fond, il parle de sa difficulté à lui, qui était pas un bon à rien. C'était un fils d'encadreur, Place Vendôme, donc un très très bel encadreur. Ça apprend peut-être à faire les cadres, mais il s'en sortait pas. Il a pas fait d'études. Il passait son temps plutôt à faire la troisième mi-temps des matchs de rugby avec Alfred Sauvy au Racing et à refaire le match, comme on dit maintenant, mais à refaire les personnages, les arbitres et tout. Et c'est ça qui a donné naissance à son numéro de musical qui s'appelait Impression sportive, qu'il a fait dans le monde entier, qui était un numéro qui a eu un succès absolument fou.
Et dont la construction est fascinante d'ailleurs.
Oui, c'est un numéro qui fait une vingtaine de minutes et qu'il a fait, qu'il a joué à peu près partout. Il me racontait qu'il jouait devant, il passait devant 3000 personnes à Copenhague. Et c'est un passionné du musical, de l'exactitude, du temps, de l'exigence, de ce qu'on met et de ce qu'on ne met pas. Ça, il l'a appris. Il l'a appris quand il a fait son numéro Impression sportive à l'Empire et qu'un coach américain est venu le voir. Il avait pour chacun de ses numéros sportifs quelques accessoires, un bout de ring, une canne à pêche, une casquette pour faire le gardien de but. Et le coach américain lui a dit, il faut tout enlever. Et il s'est débarrassé pour toujours de tous ses accessoires. Et c'est là qu'il a appris une sorte d'économie artistique qui l'obsède. Il a fait des il passait dans un music hall à côté de clowns italiens, trois clowns italiens qui avaient 250 accessoires, des perruques qui crachent de l'eau, qui tournent, des nez rouges, j'en passe, c'est des meilleurs. Et un jour, il a fait le pari avec eux, il m'avait raconté d'entrer sur scène après eux. Ils avaient énormément de succès. Entrer après eux, ne rien faire, et il dit, je prends le pari, je ferai rire autant que vous, mais en faisant rien. Et il est entré en imperméable, comme si il s'était, il arrivait du trottoir, il avait poussé une porte et qu'il s'était retrouvé sur la scène devant le public par erreur. Et au fond, ça, Tati, c'est tout ce qu'il a aimé, c'est-à-dire, il était pour ce qu'on appelle un comique naturel.
C'était ça son génie, en fait, ça marque.
Oui, et il était inspiré de quelqu'un qu'il adorait, qui est W.C. Fields, dont le cinéma est pas très connu. Il est connu un peu parce que il a dit que cette phrase, un homme qui déteste les enfants et les animaux peut pas être tout à fait mauvais. Mais il a fait un cinéma, il est extrêmement drôle. Et surtout, par rapport aux comiques de sa génération, il est pas du tout maquillé.
Il est pas
comme Harry Langdon et ça. Il est comme une sorte de Kidam. Et c'est que fait Tati quand il invente Monsieur Hulot? Il fait ça aussi. Il fait ça aussi. Et puis, quand il va jusqu'au bout, comme dans Playtime, il dit son rêve. Il dit, tout le monde est dans Playtime. Hein? Et Monsieur Hulot, d'ailleurs, même la caméra se trompe de Monsieur Hulot, parce qu'il y a des types qui sont habillés un peu comme Monsieur Hulot, et le rêve de sa vie, c'était que les personnages du film quittent l'écran à la fin de la projection et se mêle aux spectateurs qui sortaient.
Oh, bah dis donc, Woody Allen s'est inspiré de ça pour la Rose Parker. Légèrement,
oui, hein, mais lui, il a réussi à le faire.
Eh ben oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, autre question un peu abrupte, que Tati a inventé la nouvelle vague et pour adoucir le propos qu'il en était un précurseur? Je dis ça parce que c'est lui le premier qui a amené la caméra dans la rue, qui a employé des acteurs non professionnels, qui a joué avec le réel. Tous ces ingrédients-là dont se revendiquer
oui,
nouvelle vague.
Enfin, je pense pas qu'il a fait, il n'a pas vraiment fait partie du mouvement, puis surtout il n'en était pas, voilà, il n'était pas reconnu comme tel. Mais je crois qu'il était très très seul avec son écriture, Tati, une écriture tout à fait à part. Mais ce qui est vrai, c'est ce que vous dites à propos des acteurs. Ce qu'il détestait, c'est qu'on ait l'air de faire exprès. De vouloir être drôle, de faire le comique, comme on dit. Ça, il détestait ça, absolument. Moi, il est venu me le dire quand il est venu voir les premiers spectacles, La famille des chiens et tout ça. Il avait horreur de qu'on ait l'air de vouloir indiquer qu'on fasse le drôle. Et donc, il prend, c'est pour ça aussi qu'il fait appel à des gens qui, pour jouer ces personnages, il me parlait de ce petit vieux, vous savez, qui dans Playtime appuie sur les 250 boutons et tout ça. Il disait, mais j'aurais jamais pu trouver un acteur ailleurs qui fasse ça aussi bien que lui.
Ça veut dire, c'est aussi remettre en cause la fonction d'acteur?
Non, pas du tout. Vous savez, avant d'être acteur, on n'est pas acteur et puis on le devient. Non, c'est une façon. C'est une façon d'être acteur. C'est une façon d'être acteur et de pas en avoir l'air, au fond de jouer pour de bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au fond on puisse y croire.
Qu'on soit dans la sincérité.
C'est pas possible. Ouais. Il fait pas exprès, c'est pas possible. Et moi j'adore ça aussi d'ailleurs. Mais non, je pense que oui, c'est dans la sincérité. C'est plus que la sincérité, c'est aussi une façon de ne pas se vendre comme l'auteur des rires qu'on provoque dans la salle.
Ou quelle leçon d'humilité, Jérôme Deschamps.
Non, mais c'est lui qui était vraiment déchaîné là-dessus.
On se retrouve dans quelques instants pour parler encore.
Avec plaisir.
Jacques Tati, c'est passionnant.
Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for a small. Maybe you will look into my eyes and you will see. and I will love your heart with mine. Come over here with your
Deschamps, pourquoi Tati, et pourtant vous nous avez dit à quel point son cinéma il est un cinéma de génie, parce que c'est novateur, ça n'appartient qu'à lui, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reconnu et célébré plus tôt en France? Ça a mis du temps pour qu'on intègre, pour qu'on accepte, et que finalement on finisse par apprécier.
Écoutez, je ne sais pas si on a mis tant de temps que ça. C'est un cinéma qui est très particulier, parce que c'est un cinéma qui, d'une certaine façon, ne se vend pas. C'est un cinéma qui vous met dans une situation comme ça où vous êtes actif en tant que spectateur et il faut l'être. Et il faut. Et c'est pour ça qu'on est tenté de les revoir, de voir et de revoir les films très souvent, parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses.
C'est un truc dedans. À tiroir, vraiment.
Oui, c'est un truc à tiroir complètement. Et donc on découvre des choses. Et ce qui est vrai, c'est en réalité. Les films ont eu beaucoup de succès extrêmement rapidement. Jour de fête, ça a été un énorme succès. Les vacances de Monsieur Hulot aussi. Mon oncle. Alors, Playtime, l'histoire a été compliquée. Playtime, Tati disait de Playtime que ça serait toujours son dernier film. Parce que je pense aussi que c'est là qu'il a été le plus loin. Dans son ambition, et puis c'est le dernier film au fond dont il a tout choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'après, Trafic, Parade, ce sont un peu des films de commande, quand même. Et où on le pousse à faire revenir Monsieur Hulot comme fil conducteur. Et le problème de Playtime, ça a été l'économie du film, c'était 3 ans de tournage. 3 ans de tournage, une ville construite, Tativille, avec des tours construites à mi-hauteur, à 50% de hauteur. Des rues, des feux rouges, des voitures, un truc insensé qui a duré 3 ans. Hein. Des tours Eiffel de 25 mètres construites, qui fait démonter, qui fait supprimer de l'image après, des couloirs de 40 mètres qui fait refaire pour donner une légère perspective et qui lui valent ce surnom de Tatillon. Parce qu'il y a un tel goût de la perfection que, Et puis il invente, encore une fois, il invente tout un langage, ce qu'il fait avec le son. C'est absolument extraordinaire parce que, avec le son aussi, il joue avec le spectateur, il s'amuse à mettre au premier plan le son d'une action qui se passe au lointain. Au fond, il fait l'inverse.
Ah, ça fait un effet garanti formidable.
Oui. Mais au fond, il crée des événements, il refait tout ça et c'est un travail qui commence très, très, très tôt chez lui.
Jérôme Deschamps, est-ce que vous avez, parmi ces films, vous, un film préféré qui vous touche plus que les autres? Peut-être Playtime, pour tout ce que vous avez dit, d'ailleurs.
J'adore Playtime, parce que Playtime, c'est un exploit, c'est complètement visionnaire de la modernité. Et puis, vous savez, on a pendant longtemps, on a laissé entendre que Tati, au fond, c'était un nostalgique des champs de blé, des petits villages, qui était presque pétainiste, au fond, on aurait dit. Et en fait, qui détestait la modernité, le progrès qu'il avait. Mais en fait, c'est absolument faux. Il parle de sa difficulté à se situer dans un monde qui change comme comme un enfant que d'une certaine façon il est resté puisque voilà lui il est pas marié, il est pas il a pas de travail, on sait pas très bien ce qu'il fait, il est tout le temps à côté de la plaque et il est pas intégré au fond dans la société, au milieu d'un monde qui change. Mais quand on regarde comment il filme Orly, comment il filme la modernité, comment il filme la maison Harpel dans Mon Oncle, cette maison moderne, et comme elle est belle, en fait. Je veux dire qu'on voit bien que c'est pas ça le sujet. Le sujet qui le préoccupera toute sa vie, c'est de savoir comment on s'inscrit dans ce monde en mouvement et comment on reste. On doit rester, d'une certaine façon, du côté de l'enfance et loin des gens qui se prennent au sérieux.
Rester ce que l'on est, en fait.
Oui, mais vous savez, il voit bien comment, quand il met en scène les patrons de boîte ou les types qui se baladent avec des attachés-caisses, comme dans Playtime, où c'est admirable, comment les gens se copient les uns les autres en se prenant au sérieux et sans recul. Et donc... Tati, il fait la chasse à la tendresse aussi au milieu de tout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous parlez de Playtime. Dans Playtime, il y a, vous savez, tout ce qui est moderne, tout ce qui est, ce sont que des droites. Et puis, quand il y a de l'accordéon ou de la tendresse, au fond, ça se met à tourner comme les voitures et les camions font comme un ménage dans le dernier plan du film.
Alors, tout ce génie tombe pas du ciel, hein. Il a recommencé, comme tout le monde. Il faut bien commencer. C'était oui. Ces années sont l'avènement de Jacques Tati, c'est quand? C'est quoi et comment ça se passe?
Alors, ça se passe d'abord, je le disais dans les troisièmes mi-temps de rugby, à faire l'imbécile, à faire rire les autres, et finalement, ça se travaille, il fait ce numéro d'impression sportive, ce qui fait le tour du monde, et puis, il commence à faire un peu de cinéma, il essaye de, voilà, alors, la chose importante, c'est quand il fait Soigne ton gauche avec René Clément, qui est l'histoire d'un boxeur d'un type qui travaille dans une ferme, et puis il se trouve que dans la ferme on a installé un ring de boxe et il y a des types qui s'entraînent, et puis le champion met tout le monde KO. Alors puis lui, il imite un peu les boxeurs dans son coin entre deux bottes de paille, et on l'invite à venir sur le ring, et il et en même temps il essaye d'apprendre, il a un petit bouquin sur la boxe, et puis il se trompe parce que de l'autre côté c'est l'escrime. Et puis on voit les enfants autour, et puis on voit un facteur et tout ça. Et là, il a l'idée, peut-être à cause de ce personnage de facteur, de faire un court-métrage qui s'appellera L'école des facteurs, dont il y a de grandes parties de L'école des facteurs qu'on retrouve dans Jour de fête. Et il demande à René Clément de le réaliser. Et René Clément, il se trouve que René Clément est dans la bataille du rail, dans le montage de la bataille du rail, et il refuse. Il dit non, je peux pas, j'ai pas le temps. Et donc, c'est là que Tati devient réalisateur. Et peut-être que si René Clément avait accepté, peut-être que Tati n'aurait jamais fait de cinéma. On peut se demander.
Alors, quelle place au bout du compte il tient dans l'histoire du cinéma français?
Oh bah écoutez, moi je pense que c'est une place un peu à part, mais qu'elle est très importante. C'est un grand... Parce que c'est profondément poétique, drôle, et aussi mélancolique, et extraordinairement visionnaire de notre monde.
Il a ce côté comme ça, comme aurait pu avoir Buster Keaton, ouais. Notamment Charlie Chaplin, c'est-à-dire que il y a une œuvre, il y a du cinéma... Et puis une incarnation personnelle, c'est une personne. C'est-à-dire qu'une personne, on finit par confondre la personne avec le personnage et qui revient de façon récurrente et c'est formidable.
Ce qui est intéressant, c'est vous parlez de Keaton, c'est très juste, il était très très ami avec Keaton et il leur arrive des choses, une chose formidable. Parce que quand il m'a dit ça, la première fois, j'ai dit, ah, vous avez rencontré Keaton, mais ça a dû être extraordinaire, vous l'avez rencontré. Ah, vous avez dû vous échanger tellement sur vos univers, l'un et l'autre. Il dit, pas du tout. Pas du tout. On a passé 3 semaines ensemble aux États-Unis et on s'était donné rendez-vous tous les jours, 3 heures dans un bureau. Il y avait une chaise qui était là Et pendant 3 semaines, on s'est demandé ce qu'on pourrait faire avec la chaise. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est une leçon d'humilité, d'homme de musical. C'est admirable.
Peut-être qu'il a réussi à faire rire Buster Keaton, l'homme qui ne riait jamais.
Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de commun entre eux. Il y a ce visage un peu impassible, un peu perplexe.
C'est pour ça que je pensais à ça.
Perplexe devant le monde tel qu'il est. Et je trouve ça très touchant.
Et nous ne sommes pas perplexes vis-à-vis de son talent, ni du vôtre d'ailleurs. Vous en parlez très bien, Jérôme Deschamps. Merci. Je vous remercie, je vous salue. À bientôt.
Merci, à bientôt.
C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, les vacances de Monsieur Tati, écrite par Jean-Pierre Tiercelin et réalisée par Michel Sidorov. À la technique, Mathias Saint-Léon. À suivre sur France Inter, vous avez des classiques avec Elsa Boublil. Bonjour Elsa.
Bonjour Fabrice. Alors aujourd'hui, vous avez des classiques. Offre sa séquence jazz sur France Inter, puisque vous le savez, du lundi au jeudi, on parle essentiellement de musique classique. Et le vendredi, on consacre pour les amateurs de jazz l'émission entièrement au jazz, à l'actualité du jazz. C'est dans quelques instants sur France Inter.